France Culture.
On fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Comment raviver l'espoir de paix au Proche-Orient depuis hier et encore aujourd'hui? Au total, une dizaine de pays a décidé de se joindre à tous ceux qui reconnaissent déjà l'État palestinien. On se demandera ce qu'en pensent à la fois les Gazaouis et les colons israéliens. On en parlera également avec notre invité. À suivre par ailleurs la publication ce matin d'un rapport dramatique où l'on apprend que les prévisions de production des pays producteurs d'énergie fossile dépassent tout les objectifs climatiques. Puis l'actualité en France. Aujourd'hui, s'est ouvert le procès de l'édile de Saint-Étienne, accusé de chantage à la vidéo intime pour piéger son rival à la mairie. Enfin, Canal+ annonçait ce matin le rachat d'un géant sud-africain de la télévision et du streaming, ce qui fait désormais du groupe propriété du milliardaire Vincent Bolloré le leader du secteur en Afrique. Il y a ceux qui ont réussi à se trouver une place dans une voiture ou une charrette tirée par des ânes au milieu d'un amas de souvenirs entassés à la hâte, et puis tous les autres obligés de fuir à pied avec leurs maigres affaires sur les épaules. Depuis une semaine, les images de l'exode forcé de la ville de Gaza sous les bombes au milieu des pénuries et des ruines parlent d'elles-mêmes. Des foules partout, des familles traumatisées qui pleurent et crient en marchant dans le fracas des explosions sur une route saturée, une fuite vers l'inconnu avec probablement au bout du chemin un nouvel enfer. Mais c'est aussi la seule alternative aujourd'hui à une mort certaine, dès lors que les chars israéliens qui ont atteint le centre-ville de Gaza y imposent désormais un siège funeste aux habitants encore sur place. Tout le week-end, l'armée a poursuivi son entreprise de démolition, tuant à nouveau des dizaines de personnes ensevelies sous les décombres quand ils ne sont pas enterrés vivants. Et face à cette situation humanitaire désastreuse, après que la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et le Portugal ont tous officiellement reconnu hier l'État de Palestine, aujourd'hui, la France et 5 autres pays ont donc prévu à leur tour de rejoindre le mouvement lors d'une conférence organisée en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Alors on va évidemment s'interroger sur la réelle opportunité ou pas que constitue cette initiative de parvenir enfin à la paix. Je vous propose pour commencer de nous rendre à Gaza où Amira Souilem a pu joindre une jeune Palestinienne qui, après les mots, vous allez l'entendre, attend surtout des actes concrets.
Farah veut dire joie en arabe. Et cette jeune Palestinienne de 21 ans porte manifestement bien son prénom. Étudiante en anglais avant la guerre, Farah s'est improvisée depuis institutrice pour les enfants déplacés. Cette reconnaissance de l'État de Palestine, elle la salue, mais elle attend bien plus de la communauté internationale.
Cette reconnaissance ne doit pas être juste politique. La reconnaissance de la Palestine doit être suivie d'actions. La levée du siège, mettre fin au bombardement, mettre fin au blackout internet qui nous réduisent au silence. C'est cela que nous voulons.
Farah dit vouloir que cette reconnaissance s'accompagne aussi d'un mouvement de solidarité envers les Palestiniens de Gaza. Comme beaucoup, elle a l'impression que son peuple est, je cite, déshumanisée.
En tant que jeune Palestinienne, je veux que le monde sache que nous ne sommes pas des nombres sur un écran. Je veux que le monde sache que Gaza, ce ne sont pas seulement des ruines. Ce sont aussi des salles de classe, des histoires, de l'espoir et le rire des enfants. Aidez-nous à redonner vie à l'éducation. Et surtout, le plus important, ne nous oubliez pas. Votre voix, votre solidarité, votre conscience peuvent être une bouée de secours pour nous.
Au vu des bombardements à Gaza et des fréquentes coupures Internet, très peu de Palestiniens de Gaza seront en mesure de suivre le déroulement d'une soirée présentée comme historique pour leur peuple.
Un témoignage à Gaza donc recueilli par Amira Souilem. Alors au-delà des espoirs évidemment que confère aux Gazaouis cette reconnaissance d'un État palestinien, et si pour toutes les nations qui croient encore au droit international, cette initiative doit être vue d'abord et surtout comme le préalable nécessaire pour poser les nouvelles bases d'un plan de paix. En revanche, l'État hébreu est, lui, on le sait clairement, opposé à ce processus, appuyé en cela par son indéfectible allié américain. C'est même en réalité l'un des rares sujets de consensus aujourd'hui au sein de la société israélienne, raison pour laquelle, d'ailleurs, profitant de ce rejet quasi unanime, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a promis de riposter. En l'occurrence, plusieurs responsables ont prévenu qu'ils envisageaient dès à présent d'annexer la Cisjordanie occupée, où près d'un demi-million de Juifs se sont d'ores et déjà installés illégalement. Notre envoyé spécial Étienne Monin est allé à la rencontre de ces colons pour qui la reconnaissance de l'État de Palestine est pour le moins extrêmement mal reçue.
David Fedida est le Français de la colonie d'Itzar.
je pense.
Il tient le supermarché à l'entrée de la colonie. Il est arrivé il y a 18 ans. Il a 11 enfants. Et cette colonie, aujourd'hui, d'après lui, peut s'étendre après des années de restrictions.
Il y a une croissance dans notre implantation et aussi dans les villages alentours qui est favorisée par le régime de Donald Trump. Par rapport à Obama, ben, c'est plus laxiste. Ils font moins fond. Moins casser les pieds à Israël sur chaque chaise ou chaque banc qui change de place.
L'autre accélérateur de la colonisation, c'est le 7 octobre. Les colonies pour le franco-israélien sont devenues un élément clé de la sécurité pour l'État d'Israël.
Il y a une prise de conscience qu'il faut être présent sur le terrain. Parce que sinon, c'est les terroristes qui seront sur le terrain et on ne veut pas se retrouver au 7 octobre toutes les deux semaines.
D'après David Fedida, la reconnaissance n'est pas un sujet majeur dans la colonie, mais il critique tout de même violemment le choix du président français.
Macron, il a des problèmes en France, et le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de casser les pieds à Israël. Aujourd'hui, l'antisémitisme ou l'antisionisme, c'est la même chose. C'est honteux pour la France.
Et pour lui, cette reconnaissance ne changera pas le cours des choses.
Un reportage signé Étienne Monin. Alors ce sommet aujourd'hui à New York, à l'initiative de la France et de l'Arabie Saoudite, se tient en réalité à la veille de la première journée de débat général de la 80e session de l'Assemblée Générale de l'ONU. L'occasion aussi de s'interroger, est-ce que cette catastrophe humanitaire à Gaza ne témoigne pas d'une sorte d'effondrement de la justification morale de l'ordre mondial? Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Xavier Guignard, chercheur associé au centre Norian Research, également auteur de Comprendre la Palestine, une enquête graphique publiée cette année aux Arènes. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Avant toute chose, l'acte le plus commenté évidemment de cette réunion aujourd'hui à l'ONU, c'est donc la reconnaissance par la France de l'existence de l'État de Palestine. Quel regard portez-vous sur cette prise de position donc de la part du président Emmanuel Macron? Faut-il davantage insister selon vous sur l'importance symbolique que revêt cette décision ou bien au contraire sur son absence a priori de portée concrète sur l'avenir de la région?
Alors symbolique, c'est le terme qui a été utilisé par le ministre des Affaires étrangères pour caractériser cette prise de position, cette déclaration de la France qui était attendue et qui correspond à sa position historique sur la solution diplomatique à apporter à la question palestinienne. Et elle restera symbolique si elle n'est pas traduite demain et dans les semaines et les mois qui arrivent en acte, c'est-à-dire en action prise pour rendre possible et viable l'État palestinien qu'elle appelle de ses voeux par cette reconnaissance.
Justement, au-delà donc du symbole diplomatique, cet acte de reconnaissance est censé tout de même accompagner un processus de soutien à la création de fait d'un État palestinien. Quels sont les travaux déjà que prévoient d'engager les participants à ce sommet?
Alors ce sommet, il repose sur toute une série de rencontres qui ont eu lieu. Il y a eu le vote de la déclaration de New York début septembre, il y avait la réunion au niveau ministériel fin juillet, qui a organisé 8 groupes de travail qui vont toucher à peu près à toutes les composantes économiques, politiques, compris symboliques, avec la promotion d'un discours pour la paix, qui devrait accompagner cette construction de l'État. Donc la conférence qui va se dérouler à New York, elle est censée rappeler ces travaux, rappeler ces différents engagements. Elle bute quand même sur deux angles morts. Le premier, c'est que tout ça ne peut advenir en l'absence d'un cessez-le-feu à Gaza, et ni les Européens qui ont cherché à promouvoir cette reconnaissance, ni l'Organisation des Nations Unies ne semblent en mesure d'imposer ce cessez-le-feu. Il y a encore eu un veto, il y a quelques jours, un veto américain à une résolution du Conseil de sécurité qui exigeait un cessez-le-feu immédiat et la libération de tous les otages. Et puis le second angle mort, c'est l'opposition radicale affirmée dans le discours et dans les faits de l'actuel gouvernement israélien à une telle solution.
Concrètement, qui pourrait assumer une autorité politique légitime sur ce nouvel État? Est-ce que, par exemple, l'autorité palestinienne a la crédibilité, la légitimité nécessaire aujourd'hui pour porter un projet viable?
L'autorité palestinienne, ça a été une création juridique suite aux accords d'Oslo, qui avait normalement un mandat de 5 ans pour préparer le terrain à un État palestinien souverain. Ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on est dans cet intérim qui dure. Les institutions qui ont été construites dans ce processus pourraient tout à fait devenir des institutions étatiques. D'ailleurs, l'autorité palestinienne, depuis plus de 10 ans maintenant, se fait appeler État de Palestine. La question est moins celle des institutions, à la rigueur celle des dirigeants, mais pour conduire des élections, il faudrait le retour à la paix à Gaza pour pouvoir y espérer voir des bureaux de vote. La question...
Alors, Xavier Guignard, est-ce que vous nous entendez?
Que celle de l'opposition pour l'instant totale
Oui, on vous a retrouvé.
Est-ce que vous m'entendez ?
Absolument.
Allô ?
Alors, il y a forcément un décalage.
Je disais que la difficulté est moins celle des institutions qui peuvent presque déjà être là, et celle des dirigeants palestiniens, que celle de l'opposition israélienne à une telle architecture.
Une dernière question. Depuis le début de cette guerre, plus de 61 000 Palestiniens ont été tués, parmi lesquels 80% de civils. 110 000 personnes ont été blessées, des quartiers entiers ont été rasés, des hôpitaux, des écoles ciblées, des journalistes ont été assassinés, de même que des travailleurs humanitaires. Aucun conflit d'ailleurs n'a jamais fait autant de victimes dans les rangs de l'ONU depuis sa création. Et pourtant, malgré toutes ces violations flagrantes, criminelles du droit international, l'organisation reste comme paralysé. Pour quelle raison, d'où vient cette inefficacité? Est-ce que cela relève d'une forme de négligence coupable ou bien d'une absence de volonté de la part de l'ONU?
L'ONU n'a pas les moyens en elle-même de mettre fin à un conflit. Elle a un organe, le Conseil de sécurité, qui est paralysé aujourd'hui par les vétos successifs américains qui se portent garant de l'impunité israélienne. Alors on peut se réfugier derrière l'existence de la Cour pénale internationale, de la Cour internationale de justice, pour se dire qu'il y a des instances internationales qui tentent de faire avancer la lutte contre l'impunité israélienne. Mais il est vrai qu'en l'absence de décisions, notamment américaines, d'engager la fin de l'impunité israélienne, l'ONU sera complètement vidée de sa substance.
C'est bien compris. Merci Xavier Guignard, chercheur associé donc au centre Noria Research, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation et pardon à cette liaison donc capricieuse.
Une cérémonie aux accents bibliques.
Oui, prière, hommage à Dieu, appel à manier l'épée contre le mal pour ses adieux au télévangéliste Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre dernier. Toute la droite chrétienne pieuse habillée aux couleurs du drapeau américain s'était réunie hier dans un stade de foot archi-comble, transformé pour l'occasion en église à ciel ouvert. Près de 65 000 personnes au total, parmi lesquelles le président lui-même, Donald Trump, qui n'a pas hésité à ériger en martyr le militant pro-armes, anti-avortement, anti-immigré, anti-LGBT. Une rhétorique qui reflète le degré de fusion et surtout de confusion aujourd'hui du christianisme ultra-conservateur avec la politique républicaine aux États-Unis.
Les pays producteurs d'énergie fossile du monde entier prévoient d'augmenter toujours plus leur extraction ces prochaines années.
Oui, c'est ce qui ressort d'un rapport publié ce matin par plusieurs instituts de référence et dans lequel on apprend que le degré de production donc devrait atteindre des niveaux radicalement incompatibles avec les objectifs climatiques de l'accord de Paris. Véronique Robérot, bonjour.
Bonjour.
Malheureusement, on est assez peu surpris par cette trajectoire que pourraient emprunter donc les principaux États producteurs d'hydrocarbures. Et ça n'est évidemment pas de bon augure, Véronique, à moins de 2 mois de l'ouverture de la COP prévue au Brésil.
L'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle est sur le point de s'effondrer, alerté il y a quelques jours le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Ce nouveau rapport en est une preuve de plus. Il décrit un écart qui ne cesse de se creuser entre la production mondiale d'énergie fossile, la quantité de pétrole, de gaz ou de charbon que les pays producteurs de ces énergies prévoient de mettre sur le marché d'ici 2030 et la production qu'il faudrait pour limiter le réchauffement à 1,5 degré comme le prévoit l'accord de Paris. Et ça ne colle donc pas du tout. C'est plus du double que ce qu'il faudrait pour respecter l'accord sur le climat, 2 fois trop. Les auteurs du rapport ont étudié la production d'énergie fossile d'une vingtaine de pays qui représentent à eux seuls 80% de la production mondiale. À eux tous, ils prévoient donc à court terme, d'ici 2030, d'ici 5 ans, de produire 120% de plus de pétrole, gaz ou charbon que le volume nécessaire est compatible avec les 1,5 degrés. Les objectifs, en plus des États-Unis, ne sont pas comptabilisés dans ce rapport. Vous parliez donc tout à l'heure de la COP30 qui se tiendra à Belém en novembre, eh bien le Brésil, c'est un exemple, prévoit d'augmenter sa production de pétrole de 56% d'ici à 2030 par rapport à 2023 et de 110% pour le gaz. Et le rapport de rappeler que les États ne peuvent pas se défausser sur les multinationales puisque dans beaucoup de pays, les entreprises productrices d'énergie fossile sont détenues par les États eux-mêmes. Aucune excuse.
Merci Véronique Robérotte.
Midi passé de 44 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Sans surprise, avec 45% des voix, Michel Barnier est arrivé très largement en tête hier du premier tour de la législative partielle organisée dans la deuxième circonscription de Paris. Un scrutin marqué toutefois par une très forte abstention de près de 75%. Il affrontera au second tour la socialiste Frédérique Bredin et c'est peu dire que le premier ministre le plus éphémère de la 5e République apparaît donc désormais bien placé pour devenir le seul député LR de la capitale et accessoirement aussi retrouver les bancs de l'Assemblée.
Escort boy, caméra cachée et chantage à la vidéo intime.
Ce matin, s'est ouvert au tribunal judiciaire de Lyon le procès du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, 53 ans, ex-membre du parti Les Républicains, accusé d'avoir ourdi un complot via une sextape pour museler un rival. L'édile qui envisage toujours de briguer un nouveau mandat se dit victime d'une instruction à charge. Il encourt une peine de prison et d'inéligibilité. Alors, à bien des égards, cette affaire dépasse les scénarios de fiction les plus sulfureux. C'est ainsi notamment que l'association de lutte contre la corruption Anticor s'est constituée partie civile. Pourquoi ? Il s'agit là du volet strictement financier de cette affaire dans laquelle le maire est soupçonné donc d'avoir rémunéré avec des fonds municipaux les acteurs de ce chantage via des prestations fictives facturées à deux associations. Je vous propose d'écouter l'avocate et vice-présidente de l'association Anticor, Élise Van Beneden. Elle répond à Julie Paco.
Ce dont il est question ici, c'est l'utilisation présumée de 40 000 euros d'argent public via des subventions issues de la réserve du maire. L'utilisation donc de l'argent public des Stéphanois pour porter atteinte au libre fonctionnement de la démocratie. Il y aurait également un contournement des garde-fous mis en place pour contrôler l'utilisation de l'argent public, puisque normalement, une subvention qui est issue de la réserve du maire, même si cette réserve est discrétionnaire, doit être instruite par le service compétent, puis soumise au vote du conseil municipal. Pourtant ici, les adjoints en charge de la culture et des relations internationales, qui étaient compétents sur ce type de subvention, n'auraient pas été informés dans ces deux dossiers. Il y a dans ce dossier un détournement présumé des moyens de la commune pour neutraliser l'opposition et se maintenir au pouvoir. Le recours au chantage visait à empêcher Gilles Artigue de se présenter à certaines élections et à lui imposer une loyauté envers la majorité municipale. Il s'agirait donc d'un véritable trucage du jeu démocratique qui a duré 8 ans et d'une mise au pas de la collectivité par la peur. Si ces faits sont avérés, on est face à un système de type mafieux mis en place par le maire de la ville et ce type d'agissement est impensable dans notre société et doit nous alerter collectivement sur les dérives dont sont capables certains élus pour préserver leur intérêt personnel et se maintenir au pouvoir.
La vice-présidente d'Anticor, donc interrogée par Julie Paco.
C'est la plus grande acquisition à ce jour du groupe Canal+.
Oui, ce matin, l'entreprise détenue par Vincent Bolloré a annoncé le rachat d'un géant sud-africain, MultiChoice, le leader de la télévision payante en Afrique anglophone et lusophone, avec 14,5 millions d'abonnés dans le monde. Fawzi Titra, bonjour.
Bonjour.
Rappelons que Canal+ Afrique était déjà aujourd'hui le leader sur la partie francophone avec 8 millions d'abonnés, ce qui signifie clairement que le groupe Vivendi entend désormais devenir un poids lourd incontournable du divertissement et de la télé payante en Afrique.
Oui, puisque l'Afrique représente une source de croissance très importante pour le secteur de la télévision et du streaming payant. En France, le marché est concurrentiel, saturé, et les abonnés sont beaucoup moins fidèles qu'avant. En Afrique, le marché, lui, est prometteur. C'est le continent le plus jeune du monde, 60% de la population a moins de 25 ans, avec une demande de plus en plus forte pour le sport, les séries, les programmes de divertissement, surtout dans les grandes villes parmi les jeunes urbains. 43 millions de foyers africains sont abonnés à une télévision payante, selon l'analyste britannique Digital TV Research. Il pourrait y en avoir 57 millions en 2029. Alors avec cette acquisition du sud-africain MultiChoice, Canal+ veut aussi devenir un acteur majeur du divertissement mondial et rivaliser face aux géants Netflix, Apple TV, Amazon Prime et Disney+. Aujourd'hui, Canal+ peut revendiquer 40 millions d'abonnés dans le monde et la place de numéro 1 en Afrique. Et puis l'autre aspect, c'est la rationalisation. Canal+ pourra mutualiser avec MultiChoice des coûts de production de ses programmes.
Est-ce que ce rachat marque un tournant donc dans la stratégie de Vincent Bolloré ?
Eh bien clairement, puisque historiquement le groupe de Vincent Bolloré était concentré sur le transport et la logistique en Afrique, mais en 2022 il s'est séparé de ses concessions portuaires en Afrique de l'Ouest et centrale. Il a revendu en 2023 le reste de ses activités logistiques à CMA CGM. Aujourd'hui, le groupe Vivendi donc semble davantage se concentrer sur des secteurs porteurs comme les médias et le divertissement, qui ont donc un fort potentiel de croissance en Afrique.
Merci Faouzi Trita. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Partout instable, avec des averses potentiellement orageuses qui devraient se généraliser sur les trois quarts du territoire, à l'exception de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse, où la Tramontane et le Mistral devraient rapporter de belles éclaircies. Quant aux températures, elles seront comprises entre 12 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Alix Forgeau. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.